Saint-Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le litre de gazole à près d'1,56€. La flambée des prix de l'énergie continue. À 6 mois de la présidentielle, le thème du pouvoir d'achat prend de l'importance. Le communiste Fabien Roussel passe à l'attaque.
J'appelle la population à se présenter devant les préfectures. À partir de la semaine prochaine, il faut interpeller l'État massivement. Il faut se mobiliser.
L'économie post-Covid, c'est aussi la fréquentation des cinémas en baisse de 25%. Et aux États-Unis, des grèves inédites en ce mois d'octobre. Emmanuel Macron, lui, travaille son programme sous la forme d'États généraux. Après la police, la justice. Il ouvre les débats ce matin à Poitiers. Nous serons avec un représentant des greffiers, métier indispensable au fonctionnement de la justice. Près de 7% des postes vacants. Dans l'actualité encore, Jean Castex au Vatican, 2 semaines après le rapport Sauvé. Le métavers ou l'Internet de demain, qu'est-ce que c'est ? Explication, Facebook envisage d'employer 10 000 personnes à ce sujet dans l'Union européenne. Une filière d'importation de cocaïne devant la justice à Rennes, on en parle dans un instant, et puis appel à la grève chez les inspecteurs du permis de conduire. Vos rendez-vous dans le 13-14, il y a urgence aux urgences. Laval, Bourges, Le Bailleul, Tarbes, dans beaucoup de villes moyennes et petites, le manque de médecins urgentistes devient alarmant. Racontez-nous comment ça se passe chez vous, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir. Le vif de l'histoire, de l'Algérie à la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Macron face aux querelles de mémoire, le feuilleton avec le dernier guitariste de Brassens, le grand Georges aurait eu 100 ans cette semaine. Et puis c'est une chanson, le comédien Antoine Duléry choisit Cali, c'est quand le bonheur. Voilà pour ce 13-14, réalisé alors que se poursuit une grève à l'appel de la CGT Radio France, inquiète pour les métiers de la radio, dans le cadre d'une expérimentation lancée par la direction. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Quand 4 dockers sont devant la justice parmi 11 accusés, ils sont jugés à partir d'aujourd'hui à Rennes pour importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment. Procès au terme d'une enquête de 4 ans menée par la police judiciaire de Nantes avec la gendarmerie et les douanes. On parle de plus de 300 kilos de cocaïne saisie, de 10 millions d'euros. Cela se passait entre les Antilles et la côte atlantique. Le point d'entrée était dans l'estuaire de la Loire, le port de Montoir de Bretagne, Hélène Roussel.
On sait bien que tous les ports de commerce sont des portes d'entrée pour les trafics. Montoir ne fait pas exception, d'autant que son terminal à conteneurs est le plus grand de ce type sur toute la façade atlantique française. Plus facile peut-être de faire entrer de la drogue à Montoir qu'au Havre. Il y a moins de monde sur une zone étendue de 80 hectares. Une profession à part aussi, glisse ce responsable du port. Pour être docker, il faut être fils de docker, ou bien être coopté. Un tout petit monde et un système un peu mafieux en soi. Il y a 3 ans, en 2018, 3 dockers nazariens avaient déjà été condamnés entre 1 et 6 ans de prison pour avoir importé plus de 100 kilos de cocaïne. Ils avaient, assuraient-ils au procès, touché à peine 2 000 euros chacun. Mais l'appât du gain est réel. L'un des dockers sur la liste des prévenus, interpellé en flagrant délit en 2019, avait eu la promesse, selon son avocat, de toucher plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sur les 11 renvoyés devant le tribunal aujourd'hui, 9 sont en détention provisoire, incarcérés au Mans, à Angers ou encore à Rennes. La plupart en état de récidive. Cela risque jusqu'à 20 ans de prison.
Et le procès doit durer jusqu'à jeudi, où s'arrêtera la hausse du coût de l'énergie. Les principaux carburants ont encore pris 2 centimes la semaine dernière. Le gazole à 1,56€ quasiment, du jamais vu, 1,66€ pour le sans-plomb 95. Cela alors que le 17 novembre prochain marquera les 3 ans des manifestations des Gilets jaunes, les ronds-points occupés à l'automne et l'hiver 2018-2019. Dans ce contexte, le gouvernement regarde de près les réactions à la hausse du prix du gaz, de l'électricité, du gasoil, du fioul. Et puis il y a cette question, quel candidat à la présidentielle va convaincre qu'il est celui du pouvoir d'achat. Très loin dans les sondages, le candidat communiste Fabien Roussel hausse le ton. Il faut des mesures rapides pour le pouvoir d'achat, dit-il, et il appelle à manifester pour les obtenir.
Nous ne pouvons pas attendre les élections d'avril et juin 2022 pour que ça bouge. Il faut que les gens, les Français, se mobilisent dès maintenant. J'appelle les Français, j'appelle la population à se mobiliser et à se présenter devant les préfectures. À partir de la semaine prochaine, il faut interpeller l'État massivement, il faut se mobiliser. Il y a des mesures à prendre tout de suite. On peut ramener la CSG sur les retraites à zéro et tout de suite donner du pouvoir d'achat à nos retraités. On peut décider d'augmenter les salaires tout de suite et de donner un vrai coup de pouce au SMIC. Et on doit agir sur les factures de gaz et d'électricité.
Fabien Roussel sur France Info ce matin. La Commission de régulation de l'énergie recommande une baisse temporaire de la fiscalité sur le gaz à partir du 1er janvier. Fin septembre, Jean Castex a annoncé le blocage du tarif réglementé pour pouvoir étaler la facture. Et début décembre, 6 millions de foyers toucheront un chèque énergie de 100 euros. La mise en place d'un chèque carburant est également envisagée, mais il y a encore du travail pour le mettre au point, dit le ministre de l'économie. Le coût de l'énergie et les pénuries d'électricité ralentissent la Chine. Ajoutez à cela la crise immobilière dans le grand pays. L'économie chinoise est à moins de 5% de croissance. On était à 18% au début de l'année et à 8% au deuxième trimestre. L'économie post-Covid, c'est aussi un phénomène qui attire l'attention aux États-Unis. Une série de grèves en ce mois d'octobre, mois rebaptisé Strike-tober, comme Strike la grève et October. Contestation éparse mais importante dans le domaine de la santé, de l'industrie, de l'agroalimentaire et d'autres secteurs. Ceux qui en ont bavé au temps du Covid veulent voir leurs conditions de travail s'améliorer, Isabelle Labéry.
Pendant la pandémie, ils ont travaillé plus qu'avant, plus que les autres. Ils ont parfois risqué leur vie face au Covid. Aujourd'hui, épuisés, ils réclament plus de reconnaissance, soutenus par des syndicats qui reprennent du poil de la bête après des années de déclin. Au moins 100 000 salariés sont en grève ou sur le point de l'être, chiffre choc qui fait la une des médias.
Workers across the nation are refusing to return to jobs with shamelessly low pay and utterly unacceptable treatment.
Le 1er octobre, 2000 employés d'un hôpital dans l'état de New York arrêtent le travail. Le 5, 1400 salariés débrayent dans les usines Kellogg's qui fabriquent les Rice Krispies et les Corn Flakes. Ils dénoncent le fait que les salaires des nouveaux arrivants ne sont plus indexés sur le coût de la vie alors que l'inflation augmente. Mais surtout, depuis jeudi, 10 000 salariés du géant du matériel agricole John Deere sont en grève, une première depuis 35 ans. La direction leur a lâché 5% d'augmentation. Ils veulent plus et se savent en position de force. L'entreprise prévoit des bénéfices records cette année et surtout il y a pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble du marché du travail. De nombreux employeurs ont déjà cédé aux revendications, comme l'industrie du cinéma qui à Hollywood vient de passer à un cheveu d'une grève massive des équipes de tournage. Chaque nouveau succès des syndicats crée évidemment un effet boule de neige. Les mouvements sociaux sont appelés à se multiplier dans les mois et les semaines qui viennent.
Eh ben tiens, à propos de cinéma en France, même si l'activité globalement a fortement repris depuis le dernier confinement, il est un secteur où les traces des mois de fermeture sont nettes, c'est la culture. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était ce matin l'invitée de France Inter.
Je dirais que la situation est contrastée ou en demi-teinte. Dans le secteur du cinéma, la baisse de fréquentation moyenne depuis la réouverture des salles est environ de 25%, avec des films qui marchent très très bien et les films moyens beaucoup plus impactés. Il y a une reprise qui commence à s'amorcer, je ne dis donc pas que la situation est inquiétante. Le spectacle vivant, là aussi des situations extrêmement différentes. Je prends un exemple, l'Opéra de Paris. On observe des très bonnes fréquentations, mais on ne sait pas à l'avance. Donc là, il y a vraiment sur le plan du modèle économique des difficultés.
Et les théâtres privés.
Les théâtres, alors là aussi, il y a des spectacles qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien. Est-ce qu'on est en face d'une sortie de crise ou de changement durable des modes de consommation?
C'est la grande question.
C'est la grande question. Je pense un peu des deux.
Et la ministre Roselyne Bachelot envisage par ailleurs une suppression du pass sanitaire dans les bibliothèques. Dès que cela sera possible, des bibliothécaires étaient en grève contre ce pass la semaine dernière. Quant au masque, il n'est plus obligatoire à l'école élémentaire dans 12 départements supplémentaires. C'est désormais le cas, la non-obligation, dans la très grande majorité des départements français. Que peut faire le pape pour aider l'Église de France à sortir de la crise ouverte il y a près de deux semaines? 330 000 mineurs victimes d'agressions sexuelles de la part de prêtres religieux et laïcs depuis 1950, c'était la conclusion du rapport Sauvé. Ajoutez à cela une controverse sur le secret de la confession, supérieure aux lois de la République. Le président de la conférence des évêques a reconnu une maladresse. Comment l'Église peut-elle indemniser les victimes? Autre question, la visite de Jean Castex au Vatican ce matin était prévue de longue date, mais elle prend un relief particulier. Bruce de Galzin visite donc dans la matinée. Ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que le Vatican a soigné le protocole.
Oui, avec une séquence sans doute imprévue. Le pape est arrivé 20 minutes avant son rendez-vous en Fiat 500 et il est passé devant les journalistes. Quelques minutes après, Jean Castex, arrivé à son tour avec sa délégation en van Mercedes, accueilli bien sûr par les gardes suisses en tenue d'apparat. Le Premier ministre s'est ensuite entretenu 35 minutes en tête-à-tête et à huis clos avec le pape et sans traducteur. Jean Castex a parlé en espagnol avec François, sa langue maternelle. Puis la délégation a eu droit à une visite privée d'une partie du palais, de la chapelle Pauline, puis de la chapelle Sixtine qui n'a pas été fermée aux touristes pour l'occasion, ni la basilique Saint-Pierre. Ensuite, une séquence en public, là encore pour le Premier ministre, qui au détour d'une œuvre magistrale nous a confié que sa rencontre avec le pape fut remarquable, mais pas un mot de plus. Le rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église de France a sans doute été évoqué, mais le ministre de l'Intérieur, qui est du voyage aussi, a minimisé la polémique sur le secret de la confession, une erreur de communication du président des évêques de France. Gérald Darmanin dit l'avoir bien compris. Matignon semblait plus sévère, mais pas de commentaires pour le moment.
Bruce de Galzin à Rome et à peine remis son rapport sur les violences sexuelles au sein de l'Église. Jean-Marc Sauvé se penche sur la justice en France. C'est lui qui rendra les conclusions des états généraux de la justice qui s'ouvre aujourd'hui. C'est depuis Poitiers que le président de la République lance ses états généraux. Alors dans ce journal, zoom sur un métier de la justice qui peut témoigner du manque de moyens. Bonjour Hervé Bonglet.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de l'UNSA chez les greffiers, ces officiers ministériels sans qui la rédaction, la mise en œuvre des actes de justice ne pourrait avoir lieu. 22 000 personnels de greffe en France, combien de postes vacants ?
La direction des services judiciaires estime à 1500 postes vacants dans les greffes.
Est-ce qu'il y a une inégalité de territoire, des juridictions où on manque particulièrement de greffiers et d'autres où c'est un peu plus confortable ?
Il n'y a pas d'endroit où c'est confortable. Ouais. Je dirais juste que dans certaines régions, dans certains départements, c'est un peu plus compliqué.
Lesquels ?
La Seine-Saint-Denis, par
ouais.
exemple.
Ouais.
Bien évidemment, la couronne parisienne, mais je dirais que c'est commun à beaucoup d'agents de la fonction publique.
Alors ça veut dire que les greffiers travaillent dans quelles conditions ? Si on prend un exemple, quelques images pour que nos auditeurs réalisent.
Alors je précise, il n'y a pas que les greffiers, ce sont l'ensemble des personnels de greffe, hein, je précise bien. Eh bien écoutez, ils travaillent dans des conditions qui sont difficiles, puisqu'on a un réel manque de moyens depuis plusieurs années, et au-delà de ces 1500 postes vacants dont je vous parlais, bien évidemment, il y a encore autre chose, puisqu'on est largement sous-dimensionné par rapport aux autres pays européens. Donc bien évidemment, ça pose problème. Et puis un autre souci qui est excessivement important pour nous, c'est que au niveau informatique, on a des réseaux qui sont pas prévus pour travailler tout sur Internet, alors que la plupart des nouveaux logiciels qu'on nous installe sont passent par l'Internet. Donc c'est assez compliqué. Et puis on entend parler depuis plusieurs années de systèmes comme Cassiopée. Qui ne fonctionne toujours pas alors que ça fait 10 ans qu'il est installé dans les greffes. Portalis, dont on nous parle depuis plusieurs années et qui n'est toujours pas efficient.
C'est-à-dire que même si les budgets de la justice augmentent aux historiques en 2021, plus 8% en 2022, vous ne voyez pas la traduction sur le terrain ?
C'est exactement ça, oui. C'est d'ailleurs une remarque qu'on a fait passer au garde des Sceaux et au directeur des services judiciaires la semaine dernière lors de notre congrès. Puisqu'il y a un vrai manque de reconnaissance et un vrai manque de moyens au niveau des personnels de greffe. Ça, c'est clair, c'est indéniable.
Ouais, vous vous comparez au personnel de l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux de la justice ?
Alors, immédiatement, pas grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on participera pas au show médiatisé aujourd'hui à Poitiers. Il n'empêche qu'on prendra toute notre part dans les états généraux, puisqu'on veut faire entendre la voix des personnels. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque les membres de la commission indépendante qui est constituée, il n'y a pas un seul personnel de greffe ou un de nos représentants.
Oh.
Donc ça, c'est déjà assez clair. Mais nous participerons bien évidemment parce que on est là pour nous faire entendre et puis surtout faire entendre la voix de nos collègues, c'est surtout ça.
Merci Hervé Bonglet, secrétaire général de l'UNSA chez les personnels de greffe, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. La justice, c'est cette question aussi. Qu'est-ce qui se dégage Des dizaines de récits déjà entendus au procès des attentats du 13 novembre. Cette semaine, à nouveau, les survivants du Bataclan et proches de victimes vont témoigner. Sophie Parmentier, à votre micro, voici Véronique. Oui, le fait de témoigner est important et d'entendre les autres aussi. Cela dit l'ampleur des attentats, la profondeur des traumatismes.
Véronique est une maman éplorée. Ses mains ont tremblé à la barre, mais il lui fallait être là. C'était pour elle comme une mission, venir parler de sa fille unique, Claire, assassinée à 23 ans au Bataclan.
C'est quelque chose que je me devais de faire pour ma fille. Ce qui me tenait à cœur, c'est de faire honneur à ma fille. Que son nom soit prononcé, qu'on puisse se rendre compte de qui elle était.
Véronique vient souvent au procès, écouter les survivants qui témoignent et tous les récits individuels lui apportent beaucoup, une vérité collective, dit-elle.
Tous ces témoignages, c'est pas une longue complainte, c'est le récit d'un vécu, des vécus de chacun. Donc pour moi, c'est aussi accéder à une vérité, à chaque vérité en fait. Et petit à petit, pouvoir reconstituer l'environnement dans lequel ma fille a passé ses derniers instants.
Emmanuel Domenac est l'un des rescapés du Bataclan qui a témoigné face à la cour.
Avant le procès, j'aurais jamais cru ça. Mais en fait, témoigner, c'était une étape supplémentaire dans mon après 13 novembre, une étape positive et bénéfique dont je ne me rendais pas compte. Et je me suis vraiment senti libéré.
Cette semaine, la cour entendra encore des dizaines de survivants et des proches de victimes assassinées.
Sophie Parmentier, envoyée spéciale de France Inter au procès des attentats du 13 novembre avec Charlotte Piret. Procès à suivre à la radio évidemment, mais aussi sur franceinter.fr et sur les comptes Twitter de nos deux envoyées spéciales. Plus de deux mois après l'arrivée des talibans au pouvoir à Kaboul et le pont aérien organisé pour exfiltrer le plus de personnes possible, pour les réfugiés accueillis en France, la nouvelle vie commence à se mettre en place. 2600 ont laissé l'Afghanistan pour la France. Ils ont été répartis dans des logements pour demandeurs d'asile à travers le pays. Quatre familles, par exemple, à Saint-Éloi-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme. Delphine Evenou, vous avez rencontré Abdoul, arrivé sans sa femme, avec quatre de ses enfants et deux neveux.
Dans la cuisine, Abdoul prépare le thé. Cet ancien conseiller sécurité a emménagé ici mi-septembre, loin du confort de sa vie d'avant, mais peu importe.
On nous a donné une maison, de la nourriture. On n'a pas besoin d'autant de moyens que quand on était en Afghanistan. On se débrouille et puis c'est juste le début.
Abdoul accepte sans rechigner son nouveau rôle.
À un moment, mon boulot, c'était de défendre mon pays. Maintenant, mon boulot, c'est de protéger mes enfants, leur assurer un avenir. Tous les matins, je me lève, je les prépare pour l'école, et quand ils rentrent, ils me racontent ce qu'ils ont appris. Et ils m'apprennent aussi un peu de français.
Sa femme est restée en Afghanistan chez ses parents. Alors enceinte de 8 mois, le chaos à l'aéroport de Kaboul en août leur a fait peur. Depuis, elle a accouché d'une petite fille.
Je ne l'ai jamais vue, seulement en photo.
Les enfants et neveux d'Abdoul rentrent à la maison, fiers de leur nouvelle connaissance.
Je m'appelle Mohamed, comment tu t'appelles ?
Zara, 14 ans, s'habitue peu à peu à sa toute nouvelle vie à Saint-Éloi-les-Mines.
Je n'ai pas encore beaucoup d'amis, seulement deux ou trois avec qui je peux parler anglais. Mais c'est bien ici, on va pouvoir se reposer.
La famille d'Abdoul a rendez-vous dans 10 jours pour un entretien avec l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et apatrides. Dernière étape clé avant d'obtenir un titre de séjour.
Et quel parcours d'intégration pour les réfugiés afghans. Vous pouvez réécouter le 13-14 de Limoges. C'était dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile, un CADA, au mois de septembre. On vous expliquait tout cela. Techniquement, ce n'est pas une expulsion, mais cela y ressemble. En Biélorussie, l'ambassadeur de France, Nicolas de Bouyane de Lacoste, a quitté Minsk hier, deux mois après la réélection du dictateur Alexandre Loukachenko, qu'une bonne partie de la communauté internationale n'a pas reconnu, la France notamment. Les manifestations après cette présidentielle ont été réprimées, des centaines de personnes en prison, des dizaines de médias et organisations fermées. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter en Russie, allié de Loukachenko, c'est l'homme de toutes les brutalités, y compris dans le domaine diplomatique. Donc le départ de l'ambassadeur de France en est la dernière illustration, Sylvain.
Oui, effectivement, ça n'est qu'un épisode de plus dans le conflit qui oppose la Biélorussie à la plupart des pays occidentaux. Des diplomates britanniques ont déjà été expulsés. Toute l'ambassade de Lettonie a connu le même sort. Et cet été, Minsk a refusé d'accréditer l'ambassadrice américaine nouvellement nommée. C'est maintenant donc au tour de la France. Nicolas de Lacoste, arrivé il y a un an, n'avait apparemment toujours pas présenté ses lettres de créance. Et en plus, Il s'est affiché la semaine dernière avec les membres d'une organisation de défense des droits de l'homme récemment interdite par le gouvernement Loukachenko. Autant de signes qui ont un sens en diplomatie et qui traduisent une hostilité assumée, et ce, alors qu'aujourd'hui même l'Union européenne doit discuter de nouvelles sanctions à l'égard de Minsk. La Biélorussie est maintenant accusée de favoriser l'entrée en Europe de migrants en provenance d'Irak et d'Afrique, notamment au travers de sa frontière avec la Pologne, une sorte de guerre hybride d'un nouveau genre de la part d'un État de plus en plus isolé et qui ne peut plus compter dorénavant que sur le soutien de la Russie.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour France Inter. La guerre qui n'en finit pas au Tigré en Éthiopie. Selon l'agence France Presse à l'instant, Mekele, la capitale du Tigré, est touchée par des frappes aériennes. L'AFP cite des sources humanitaires. C'est la nouvelle frontière de l'Internet, dit le PDG de Facebook France. Invité de nos confrères de France Info ce matin, Laurent Soli annonce que la firme américaine prévoit de recruter 10 000 personnes dans les 5 ans au sein de l'Union européenne sur ce projet de métavers. Peut-être est-ce la première fois que vous en entendez parler. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Rédaction web de France Inter. Métavers, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, avant d'être une promesse technologique, c'est un concept né dans la science-fiction. On doit le terme à l'écrivain américain Neal Stephenson au début des années 90 et on l'a retrouvé par exemple chez Steven Spielberg dans le film Ready Player One qui montre très clairement ce qu'est un métavers, un monde virtuel où les gens du monde réel peuvent entrer en contact par l'intermédiaire d'avatars et où les interactions virtuelles ont une influence sur la vraie vie.
Donc voilà un concept de science-fiction qui pourrait devenir réalité. Quelles sont les applications ?
Il y en a déjà dans le jeu vidéo quand des artistes font des concerts virtuels dans le jeu Fortnite, comme cela s'est beaucoup fait l'an dernier. C'est une forme de métavers. Pour Facebook, à terme, le métavers prendra la place de l'internet classique. On pourra par exemple faire ses achats en ligne en ayant l'impression de se balader dans un vrai magasin ou regarder des vidéos YouTube comme si on était dans une salle de ciné. Facebook a même lancé une première expérience cet été avec Workrooms, un espace de télétravail qui ressemble à un vrai bureau en 3D.
Quelle limite à ce développement ?
Deux grandes limites. La première est technologique. Pour donner l'impression d'être immergé dans cet univers virtuel pour l'heure, l'outil privilégié, c'est le casque de réalité virtuelle qui est lourd, coûteux et peu pratique. Il va donc falloir beaucoup d'innovation matérielle avant que le métavers devienne possible et puisse espérer remporter l'adhésion du public. Deuxième limite, le système ne pourra fonctionner que s'il est ouvert, c'est-à-dire s'il n'appartient à personne, que chaque entreprise peut y créer des applications et ça dans un univers ultra concurrentiel dominé par les GAFAM, ce sera aussi un obstacle important.
Métavers, on trouve des prolongements sur franceinter.fr je suppose. Julien, vous me faites oui de la tête. Dans la vie réelle, si vous ou l'un de vos proches doit passer le permis de conduire aujourd'hui, il se peut que ce soit reporté. Le syndicat Force Ouvrière des inspecteurs du permis de conduire appelle à la grève. Il y a plusieurs motifs de mécontentement. Ils estiment que la réforme de 2015, Emmanuel Macron alors à Bercy, est un fiasco total pour faire baisser le coût. Depuis 2015, il est possible de préparer le code sur Internet et de s'inscrire pour l'examen pour 30 euros seulement. Selon le syndicat, le taux de réussite est en chute, les fraudes explosent. Ils demandent aussi plus d'hommes et plus de sous pour faire passer le permis. Le nombre de candidats en attente est estimé à 350 000. La crise sanitaire a aggravé ce phénomène qui n'est pas nouveau. Les délais s'allongent donc et cette journée de grève, mécaniquement, ne va pas arranger les choses. Illustration à Couëron, en Loire-Atlantique, avec Mathieu Bounour.
Ce vendredi matin, deux personnes sont passées pour venir s'inscrire et prendre des cours. Mais quand Esther Brisson regarde sur son planning...
Première date de conduite de disponible au vendredi 31 décembre.
Et pourtant, elle n'a pas plus d'élèves qu'avant.
Peu de places de permis tous les mois, donc un embouteillage assez impressionnant.
Pour cette directrice d'auto-école, il manque des inspecteurs pour le permis.
Il y a beaucoup de déçus, évidemment, qui pensent pouvoir passer leur permis assez rapidement. Malheureusement, je peux pas faire de miracle.
Eva a passé son code en ligne, pas facile de trouver une place pour apprendre à conduire.
C'est que j'en trouvais pas, on m'a parlé de celle-là et je suis venue.
Elle n'a aucune idée du moment où elle pourra passer le permis.
Je sais que c'est compliqué pour avoir une date, donc je sais pas du tout.
Alors la solution qu'a trouvée cette auto-école, c'est de faire passer les jeunes en conduite supervisée. Ils peuvent conduire avec les parents après un test pour garder leur niveau.
On doit en avoir une trentaine en attente. Pour le mois de novembre, on a 6 places.
Charles Brisson est moniteur de conduite. Il sélectionne les meilleurs à chaque passage.
Si on grille une place, c'est la double peine parce que les difficultés pour avoir des places supplémentaires sont encore plus importantes qu'à l'habitude puisqu'on n'a pas déjà les places qu'on devrait avoir normalement.
En cas d'échec, les élèves peuvent parfois devoir attendre jusqu'à 6 mois pour avoir une seconde chance d'obtenir le précieux sésame.
Mathieu Bonnour, France Bleu, Loire-Océan, sur cette grève des inspecteurs de permis de conduire. Nous parlions tout à l'heure des nouveaux départements où le masque n'est plus obligatoire à l'école élémentaire. Même si dans certains départements, le taux d'incidence du virus augmente, on partait de très bas, les voyants à propos de la lutte contre le Covid restent donc au vert. Un signe de cette ambiance plus détendue dans la vie des familles, les anniversaires entre enfants reprennent. Exemple, au néo-centre d'Andelnan, dans le territoire de Belfort. Ce centre qui accueille des fêtes a été fermé 9 mois. Il a rouvert avec passe sanitaire et masque obligatoire. Eh bien, il y a désormais une trentaine d'anniversaires chaque week-end. Marion Pépin, France Bleu, Belfort, Montbéliard.
C'est l'anniversaire de Louis et pour l'occasion, il a emmené tous ses copains au Neo Center. Ils jouent à chat en attendant leur partie de laser game.
Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Du coup, ça permet de revivre des émotions où ça fait longtemps qu'on n'a pas revécu ça.
Il fête ses 13 ans avec une dizaine de copains.
Là, il y a Nicolas, Gauthier, Belinda, Mathis, Nolan. On a préparé des stratégies. En fait, on est anniversaire contre anniversaire.
Et il affrontera l'équipe de Noémie, venue fêter ses 11 ans.
C'est un peu un moment avec des copines et c'est un peu rigolo. Enfin, on se tire dessus, mais genre, ça se fait mal. J'aurais aimé sans le masque, mais c'est le maximum déjà d'aller jouer. Voilà.
La maman de Noémie est ravie de pouvoir organiser à nouveau des anniversaires au Neo Center.
Nos enfants sont vraiment très contents de pouvoir à nouveau refaire la fête dans un centre de loisirs comme ça. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Ouais. On est content d'avoir un petit peu passé la période de confinement et la période de toute la crise sanitaire qu'on a connue.
Les employés du centre sont enchantés, eux, de retrouver tout ce petit monde, même si c'est un peu le branle-bas de combat l'après-midi.
Là, c'est une belle petite cohue, mais agréable. C'est agréable, hein, parce que ça nous a tellement manqué. 8 mois de perte de contact aussi avec les gens, ça fait un bol d'air. On revit à nouveau.
Le centre espère revenir rapidement à son chiffre d'affaires d'avant la crise du coronavirus.
Du côté des vaccins, près de 50 millions de Français, 49 500 000 ont un schéma vaccinal complet. Mais alors que la campagne pour la troisième dose a commencé et que la question d'un rappel annuel n'est pas tranchée, la course à la fabrication de vaccins continue. Il y a un peu plus d'un mois, le laboratoire Valneva subissait une déconvenue, l'annulation de son contrat avec le gouvernement britannique. Aujourd'hui, le franco-autrichien retrouve de l'espoir et annonce des résultats positifs d'essais de phase 3 sur son candidat vaccin. Simple communiqué de l'entreprise, pas d'étude indépendante. Le cours de bourse de Valneva bondissait ce matin de 30%. Une flamme allumée, sans personne pour l'applaudir, mesure anti-Covid là aussi oblige. La cérémonie dans le stade d'Olympie s'est tenue ce matin à moins de 4 mois des Jeux d'hiver de Pékin. Plus vite, plus haut, plus fort, mais quand l'âge arrive, cela devient plus difficile. À 40 ans passés, le tennisman Roger Federer n'est plus dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Il glisse aujourd'hui à la 11e place au classement ATP. Il était entré dans le top 10 il y a près de 20 ans en 2002 et n'en était sorti que quelques mois jusque-là. Dans un instant, la météo puis les invités du 13-14, il y a urgence dans les services d'urgence.
On m'avait dit que le BTP était un secteur qu'on choisit par défaut. Moi, j'y ai trouvé ma vocation.
On m'avait dit que le BTP, ce n'était que des métiers d'hommes. En étant sur le terrain, j'ai vu que j'y avais toute ma place.
On m'avait dit que le BTP n'était pas un secteur innovant. Pourtant, chaque jour, je rénove et je construis avec des matériaux plus écologiques.
Sortons des clichés et construisons maintenant le monde de demain, grâce aux métiers de la rénovation énergétique et du bâtiment. 30 choix de carrière qui ont du sens, à découvrir sur faire.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
L'Orchestre Philharmonique de Radio France, un orchestre au cœur de la création. Le dimanche 7 novembre à 16h, à l'Auditorium de Radio France, Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique célèbrent le centenaire du pianiste Georges Tschifra avec la création française de la Tschifra Psodia de Peter Edvösch et offre au public de l'Auditorium de Radio France un contrepoint insolite et monumental avec la Symphonie en Ré de César Franck. Entrez au cœur du concert. Informations et réservations, maison de la radio et de la musique.fr. France Inter aime
Cabaret de l'exil, une création du théâtre équestre Zingaro. Avec sa tribu mi-homme mi-chevaux, Bartabas revient à la forme conviviale du cabaret pour partager les musiques klezmer d'un pays quitté mais jamais oublié. Il renoue le lien secret vers des racines ancestrales. Un cabaret joyeux et nostalgique pour célébrer la culture yiddish. Cabaret de l'exil, à partir du 19 octobre au Fort d'Aubervilliers, un spectacle France Inter.
Le temps de cet après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
La pluie revient par le nord-ouest, Élodie.
Oui, sur la Bretagne, puis elle gagne le Cotentin en ce moment. Elle va gagner toute la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, avec un vent de sud jusqu'à 50 km à l'heure. Ces pluies, elles passeront par la région parisienne et les Hauts-de-France cette nuit. On les retrouvera le long des frontières du Nord demain matin. En attendant, sur la plupart des régions, le soleil est voilé cet après-midi. Un voile épais des Charentes vers le Nord-Pas-de-Calais, mais encore un beau soleil du Languedoc vers les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Notez aussi quelques grisailles tenaces du côté de la plaine d'Alsace, vers le Dijonais également. Ça va limiter la hausse des températures à 14 degrés à Strasbourg ou à Dijon, mais il va faire 18 degrés à Cherbourg, à Reims, à Besançon, 19 à Paris, 20 degrés à Nantes et à Grenoble, 22 à Poitiers, à Nîmes, 23 pour Montauban, pour Ajaccio et 25 degrés au Cap-Ferret.
Élodie Calac, Météo France. Les invités du 13-14, à présent, nous parlons du manque de médecins urgentistes.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
C'est une autre manifestation du phénomène de déserts médicaux dont nous parlons régulièrement dans cette émission. Le manque de bras dans les services d'urgence de certains hôpitaux. À Bourges et Laval, au Bayeux, dans la Sarthe, cela prend une tournure réellement inquiétante. Inquiétude aussi à Tarbes, à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Cela alors que la loi RIST, qui encadre la rémunération des intérimaires et sanctionne les excès, doit entrer en vigueur dans 10 jours. Pour des petits hôpitaux, c'est un handicap supplémentaire. François Hollande avait promis qu'aucun Français n'aurait un service d'urgence à moins d'une demi-heure de chez lui. Faut-il définitivement enterrer ce principe? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos questions et témoignages. Deux invités dans le 13-14 aujourd'hui, le docteur Caroline Brémaud, chef des urgences à l'hôpital de Laval en Mayenne, et le maire de Bourges, Yann Galu. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Yann Galu, le 8 octobre dernier, la situation était telle que les ambulances de Bourges ne pouvaient plus prendre de patients. Les hôpitaux de Vierzon et Saint-Amand ont dû colmater les brèches. C'était la troisième fois en 3 mois que la situation était critique chez vous. Qu'en est-il aujourd'hui, 18 octobre?
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur le fait que la situation recommencerait, mais c'est peut-être dû aussi au fait que, avec le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, et le maire de Saint-Amand-Montrond, Emmanuel Riotte, on a tapé du poing sur la table et on a fait quelque chose en responsabilité. On a été contraint, on était obligé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre X, parce que nous ne pouvions pas accepter qu'une troisième fois en quelques mois, eh bien, il n'y ait pas de fonctionnement des urgences mobiles de Bourges dans le 8 octobre dernier. Donc, il nous fallait alerter publiquement. On a pris cette arme d'un dépôt de plainte parce que aujourd'hui, à Bourges, comme ailleurs, et comme ça a été le cas dans le département du Cher, nous considérions que cette situation faisait que des personnes pouvaient être mises en danger en raison de cette situation et que c'était totalement inacceptable. Donc, c'est un cri d'alarme très fort que nous avons voulu lancer. Et moi, je souhaite, en tant que maire, que des réponses concrètes nous soient enfin apportées, parce que là aussi, il est quand même très important de signaler que ça fait des mois et des mois que les élus locaux alertent sans véritable réponse. On a l'impression qu'on n'est pas du tout entendu, ni par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé d'Orléans, ni par le ministre Olivier Véran, qu'on avait saisi. Tous les élus du Cher avaient fait une lettre dans ce sens il y a un an. À ce stade-là, rien n'a avancé, donc c'est un cri d'alarme, un cri d'alerte que nous lançons.
Caroline Brémaud, à Laval, combien de postes de médecins urgentistes et combien de postes vacants?
Alors à Laval, on est 5 équivalents temps plein sur le service des urgences pour un objectif entre 16 et 18.
Ouf.
Donc oui, on est à peine un tiers de l'effectif cible.
Ça donne des journées comment ça?
Ça donne des journées infernales, c'est-à-dire que pour l'instant, à coup d'heures supplémentaires, de temps additionnel, on est 2 au lieu de 3 la journée et on est tout seul au lieu de 2 la nuit. Donc c'est des interruptions de tâches constantes, c'est aller au travail avec la boule au ventre, c'est l'impression d'abandonner la population, parce que du coup on ferme des filières. Pour l'instant on n'en est pas encore rendu à fermer complètement les urgences, mais on l'envisage pour la fin du mois. Donc c'est très compliqué.
On va détailler cela au fil de l'émission, mais comment expliquez-vous cette pénurie de médecins urgentistes ?
Ben, le métier n'attire plus, en fait. C'est un métier passion. Mais c'est un métier qui est difficile, avec une grande fatigabilité. En fait, il y a plus beaucoup de gens dans le service qui sont à temps plein. Donc, il y a beaucoup de gens qui partagent leur activité avec une autre activité parce que ça devient vraiment difficile de maintenir le rythme passé un certain âge. Donc, par exemple, nous, dans notre service, pour avoir les 5 équivalents temps plein, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 7 personnes pour 4,8 équivalents temps plein, oui, exactement. Donc vous voyez, les gens ont des temps partagés parce que sinon ils peuvent pas tenir le cadencement des gardes parce que les gardes en fait la nuit sont très chargés. Et puis cette année particulièrement, il y a pas de nouveaux urgentistes de sortie parce qu'il y a eu un allongement des études de médecine d'urgence. Donc c'est une problématique supplémentaire.
Quoi, il n'y a pas eu de médecin urgentiste à Laval ou au plan national?
Non, sur le plan national, en fait. Il y a eu un allongement de la durée des études, ce qui est une bonne chose pour la formation, ouais, mais on est l'année blanche, en fait.
D'accord.
Donc ça rajoute à la pénurie. Et puis on sort d'une crise sanitaire qui a été éprouvante et il y a des gens qui ont décidé d'arrêter la médecine d'urgence. J'en ai deux, moi, dans mon équipe qui sont partis.
Qui sont partis ces dernières semaines.
Oui.
Jean-Marc.
Et j'en ai un qui m'a dit qu'il allait partir début d'année prochaine.
Ah oui, donc la pénurie va s'aggraver. Jean-Marc est au standard. Vous nous appelez du Gers. Vous êtes vous-même médecin généraliste. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour. Je vous appelle de Gascogne. Ma question à ma consoeur, c'est est-ce que cet état de fait ne vient pas de la maltraitance des urgentistes par des patients stables qui consomment des urgences, qui sont ouvertes H24 sans filtre et qui sont des centres pratiques. Comme si vous, Monsieur Duvic, journaliste, vous passiez 80% de votre temps à faire du courrier du cœur au cas où il y aurait une information importante qui représenterait moins de 2%, puisqu'il y a moins de 2% d'urgence vraie dans les services d'urgence. Comme l'a dit ma consoeur, c'est une spécialité à part entière maintenant, c'est un diplôme d'urgentiste. Et quand on les surberge de soins non programmés, eh bien, au bout d'un moment, il craque. Et c'est normal.
Caroline Brémaud, qu'en dites-vous? Y a-t-il une très grande majorité de patients qui n'ont rien à faire aux urgences et que vous voyez jour et nuit?
80% des patients ne relèvent pas du service d'urgence. C'est pour ça qu'on revendique notre statut d'urgence et on est en train de se transformer en centre de soins non programmés. Mais ce n'est pas la faute des patients. Ces patients en fait sont dans un désert médical. Par exemple, en Mayenne, on est le 5e désert médical de France. Donc, vous avez 6,3 médecins pour 10 000 habitants, alors que la moyenne nationale est à 8,6 et qu'on a des départements où ils sont à 13,4. Mmh. Il y a 10% des plus de 16 ans en Mayenne qui n'ont pas de médecin traitant. Et à l'échelle nationale, c'est 7 à 9 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant qui est le premier recours, normalement. Donc je comprends la population qui se sent abandonnée et du coup qui se dirige aux urgences.
Yann Gallu, on a déjà posé deux constats, la pénurie de médecins urgentistes et puis voilà, le fait que beaucoup de patients se trouvent aux urgences parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, mais en principe ils ne devraient pas y être. Quelle piste voyez-vous pour sortir de cette crise?
Écoutez, moi je pense que c'est à l'État de nous proposer des pistes, parce que nous il y a urgence, mais je rejoins aussi ce qui a été dit à l'instant, c'est que moi les gens de Bourges et du Cher vont aux urgences parce qu'il n'y a plus de médecins généralistes. Donc l'une des questions que moi je me pose, c'est qu'au bout d'un moment, est-ce que les médecins généralistes de manière générale, ou peut-être on ne devrait pas obliger pendant un certain temps, peut-être contre des contreparties, certains médecins quand ils s'installent à s'installer dans des territoires où il n'y a pas assez de médecins. Donc, vous savez, quand vous êtes policier, quand vous êtes instituteur, quand vous sortez de votre école, on vous impose quand même pendant quelques années d'être présent dans votre travail, dans certains endroits. Nous, il y a des zones qui sont sous-dotées en termes de médecins, comme la zone du Cher, et puis on sait que dans d'autres endroits, il y a trop de médecins. Donc, ne faudrait-il pas un équilibre et peut-être une obligation, même si ce n'est que 2 ou 3 ans, pour que des médecins, notamment des médecins de ville, parce que tout est lié, vous avez raison de le dire, les urgences de Bourges, elles sont pleines parce qu'aujourd'hui à Bourges, eh bien, on manque de médecins généralistes.
Caroline Brémaud, vous êtes favorable à cette, disons, mise entre parenthèses de la liberté d'installation des médecins?
Tout à fait, je partage complètement ce point de vue. Pour moi, il faut une réflexion profonde et globale sur le système de soins. Donc la situation aux urgences ne peut se comprendre et s'interpréter que si on regarde ce qui se passe en amont, le flux d'amont, donc pour faire en sorte que les gens ne viennent pas aux urgences, et le flux d'aval, faire en sorte qu'on puisse mettre les gens dans des lits. Donc il faut avoir une réflexion tripartite et sur le flux d'amont, pour moi, revenir sur la liberté d'installation, et c'est un fondamental.
Anne au standard de France Inter. Bonjour Anne, vous êtes médecin urgentiste dans les Pyrénées-Atlantiques, je crois.
Oui, tout à fait. Je suis praticien hospitalier aux urgences d'Oloron. Nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante, nous aussi, comme beaucoup de services d'urgence en France à l'heure actuelle. Nous assurons là actuellement un service grâce à une équipe qui est composée de 40% uniquement de médecins titulaires. Hein, c'est-à-dire que on est à peu près l'équivalent de 5 équivalents temps plein pour un besoin à 11,7 équivalents temps plein. Et tout le reste est assuré par des médecins vacataires qui sont fidélisés, mais qui, du fait de la mise en application programmée de la loi RIST, vont se désengager du planning. Nous, on veut absolument continuer à fonctionner, mais là, on est véritablement inquiet parce que avec les effectifs que nous avons, nous n'allons pas pouvoir assurer et le SMUR et les urgences, et que se pose la question là aussi d'une fermeture d'ici début novembre, certains jours et certaines heures. Des urgences ou du SMUR. Oui. Voilà, sachant qu'on est sur un territoire rural et montagnard très étendu, avec des temps d'accès qui sont déjà longs
Si des services d'urgence ferment,
des prises en charge extra-hospitalières ou pour les patients.
Ça va s'accroître. Docteur Brémaud, oui. il faut qu'on détaille cette histoire de la loi RIST. Elle doit entrer en vigueur le 28 octobre, donc tout bientôt. Elle encadre le tarif des médecins intérimaires pour éviter les excès, mais du coup, dans les services d'urgence où il y a tension, ça risque d'accroître la pénurie. J'ai bien résumé la situation?
Oui, c'est exactement ça. C'est la double peine pour nous parce que on est en difficulté et cette loi, elle nous achève, en fait. Mmh. Les praticiens qui viennent par les agences d'intérim vont se retirer de leur plage et on va se retrouver encore plus en difficulté. Et là où c'est injuste, c'est que le secteur privé n'est pas concerné par cette loi. Donc, les remplaçants vont soit se mettre en vacances pendant un certain temps, soit aller vers les cliniques, les centres de soins non programmés. Donc, on est vraiment puni par cette loi.
Alors, cette loi, elle a, me semble-t-il, une origine dans le fait que certains intérimaires abusaient dans les tarifs demandés.
Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, la démarche initiale est bonne, hein, parce qu'il y avait, il y a quelque chose à faire, mais dans la mesure où on ne peut pas sanctionner ou plafonner l'ensemble de la profession, c'est injuste pour l'hôpital, en fait, pour le secteur public.
Yann Gallu, est-ce que vous avez des échanges? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a soutenu votre plainte, me semble-t-il. Est-ce que vous avez des échanges avec les ARS, avec le ministère de la Santé, notamment sur cette loi RIST, pour peut-être décaler la mise en application?
Écoutez, on n'a pas d'échanges concrets depuis ces derniers jours. Ils sont au courant de la situation parce que nous avons alerté, il y a eu des questions au gouvernement, au Sénat. Mais à ce stade, moi, je n'ai pas de réponse concrète. Et je partage l'inquiétude du docteur qui vient de s'exprimer sur le fait que l'entrée en vigueur de cette loi, qui au départ est bonne, hein, il faut limiter. Vous savez, chez moi, ils demandaient 2000 euros les 24 heures. Mmh. 2000 euros les 24 heures, et c'est vrai qu'on va leur proposer avec cette loi 1000 euros. Donc c'est déjà 2000 euros pour 24 heures de garde, vous imaginez. Et parfois, on avait des difficultés. Donc là, on tomberait à 1000 euros. Le problème, c'est qu'on est entre le marteau et l'enclume. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où ces mercenaires que sont devenus certains intérimaires, eh bien, nous tiennent parce que nous, on est bloqués. On est complètement bloqués. Donc moi, je pense que face à cette situation, face aux difficultés que la loi va entraîner, et on voit que ce n'est pas que à Bourges ou à Laval, mais que apparemment, ça va quand même rayonner dans tout le territoire. Moi, je pense que dans les jours qui viennent, au regard de cette situation, il faut que Olivier Véran et le gouvernement et les ARS réagissent et nous trouvent des solutions concrètes. Parce que sinon, ce qui est arrivé à Bourges et ce qui semble arriver à Laval va se multiplier partout sur le territoire national.
Et d'ailleurs, vous avez des échanges avec d'autres élus locaux, parce que je suis assez étonné du nombre d'appels qu'on a et qui vont tous dans le même sens. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe à Bourges et Laval existe dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits en France ?
Eh bien, j'ai les mêmes constats. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était assez local, malheureusement, parce que dans notre région centre, c'était l'hôpital de Bourges qui était le plus en difficulté. Mais il semble que ce problème, avec l'arrivée de la loi, eh bien, montre les difficultés qu'il y a dans tous les services d'urgence. Mais ça fait partie, comme ça a été exprimé par le docteur de Laval, ça fait partie aussi d'une implantation générale de la médecine en France. On se rend compte que les territoires sont de plus en plus sous-dotés et qu'il va falloir, à un moment donné, prendre ses responsabilités, aller vers une obligation d'installation, aller vers une obligation. Là, moi, en tant que maire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces intérimaires existent. Ce sont des médecins, hein. Ils ont le diplôme et ils font ce qu'ils veulent. Eh bien, à mon avis, à un moment donné, eh bien, il faut les obliger à aller dans les hôpitaux plutôt qu'ils soient quelque part à choisir là où ils vont s'installer à 2000 euros pour 24 heures de garde.
Allez, un dernier.
On peut plus continuer avec ce système-là.
Un dernier témoignage, celui de Régine au Standard. Bonjour Régine.
Oui, bonjour.
Vous êtes maire d'une commune de 1400 habitants dans le Lot-et-Garonne qui s'appelle comment la commune ?
Meillan-sur-Garonne.
Et alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ?
Mais pour nous, il se passe. Moi, j'adhère pleinement aux propos que viennent de dire
Yann Gallut,
ouais. Monsieur le maire de Bourges, parce que on est dans une situation. Nous, sur Marmande, c'est depuis le mois d'août qu'on a un problème aux urgences. Et là, ça ne vient que s'amplifier puisque le chef des urgences du centre hospitalier d'Agen, qui venait apporter son aide, a démissionné. Donc on n'a plus, structurellement, on n'a plus d'urgence sur Marmande et c'est un vrai et douloureux problème. Et j'adhère mais pleinement à toutes les analyses qui ont été portées et notamment sur la médecine générale. Nous, on est dans un désert médical qui s'amplifie de plus en plus et notamment on a pu déceler, puisqu'on a mis en place des maisons de santé et des centres de santé, on a pu déceler un départ des médecins généralistes dans des zones qui vont s'installer dans des zones de revitalisation rurale, dont exempt de taxes. Et donc, c'est un vrai et cruel problème. Et nous, on a, avec Val-de-Garonne Agglomération, puisque je suis vice-présidente oui. chargée de la santé, on a interpellé l'ARS, on a interpellé aussi le ministre Véran.
Et toutes les semaines, et pour l'instant, pas de réponse.
Voilà, tous les vendredis, on se rejoint à 17h oui. devant le CHIC de Marmande, et on n'a toujours pas de réponse. On est très démunis.
Merci, Régine, pour ce coup de fil, et merci à nos deux invités. Et aux très nombreuses questions qui étaient au Standard et sur l'appli de France Inter. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Un président seul peut-il apaiser les mémoires douloureuses de tant d'événements ?
Et s'il ressuscite le nom de Maurice Papon en plus ?
Nous parlerons de cela. Emmanuel Macron face au défi mémoriel. Le feuilleton. Alors que cette semaine marque les 100 ans de la naissance de Georges Brassens, jusqu'à vendredi, nous serons avec son dernier guitariste, Joël Favreau. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'est un comédien de théâtre, cinéma, télévision qui aime bien se lancer seul en scène régulièrement. Antoine Duléry, au Palais des Glaces à Paris, demain et mercredi, est à votre micro Frédéric.
Et il m'a d'abord parlé de ses deux soirées imaginées pour ses 40 ans de carrière, 90 minutes avec Antoine Duléry. En l'occurrence, cette fois, il ne sera pas tout seul sur scène pour évoquer ses souvenirs. Ce sera comme une conversation avec le producteur du spectacle.
Effectivement, je vais être interrogé par David Becker. On va revoir un peu 40 ans de carrière avec des musiciens. Les gens peuvent poser des questions. C'est un peu comme si j'invitais le public dans mon salon. Je vais certainement chanter du Montand, d'Aznavour, je sais pas, on va voir. Il y a une chanteuse et des musiciens qui m'accompagnent. Je vais sans doute faire quelques imitations puisque je vais raconter des anecdotes. Donc forcément, je vais prendre la voix de ceux dont je raconte les anecdotes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je raconte une histoire sur Johnny, forcément, je vais avoir tendance à prendre sa voix. Parce que c'est plus amusant.
Aznavour. Voilà.
C'est Charles Aznavour. Je suis très content, Frédéric, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à la radio. Mais là, maintenant, grâce à vous, je revis. Je renais. Et je vais chanter un de ces quatre avec vous.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot, espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou.
Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève.
J'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
Et c'est donc un tube de Kali qu'a choisi Antoine Duléry.
C'est quand le bonheur, ouais. Avec un point d'interrogation. Premier titre de son premier album solo. Antoine Duléry l'a choisi pour ses paroles et pour sa mélodie, mais aussi parce qu'il aime énormément Kali.
Kali, j'ai fait un film avec lui en 2007 qui s'appelait Magique, un film qui se passe dans le milieu du cirque avec Kali donc, et Marie Gélin. Et on s'est retrouvés tous les trois pendant 2 mois au Québec, à 1h30 de Montréal, dans cette région merveilleuse de campagne. Et c'est vrai que ça nous a énormément rapprochés, même si on se voit très peu. Mais on a ce trip entre nous, ce moment justement de bonheur entre nous qui fait que depuis on est vraiment amis. J'ai une grande tendresse pour cet homme qui est généreux, dingue, libre et talentueux. Et c'est vrai que quand on connaît l'artiste, on aime encore plus cette chanson magnifique qui est pleine d'espérance et qui, je trouve, le résume bien et qui, en même temps, est une chanson qui vous fait la pêche. Et je crois qu'en ce moment, les gens ont envie d'avoir la pêche. Alors, c'est quand le bonheur ? C'est quand le bonheur ? Tout de suite, là, maintenant. Il faut décider d'être heureux. Et comme disait Jacques Prévert, il faut toujours être de bonne humeur, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui n'a que ses vieux amants, c'est qu'on perd l'amour.
Est-ce que vous, quand vous vous levez, vous dites « le bonheur, c'est pour aujourd'hui » ?
Je suis comme tout le monde, hein, je ne suis pas un gai pinson toute la journée. Mais c'est vrai que le matin, je me dis « tiens, une belle journée, on va essayer qu'elle se passe plutôt bien, parce que le bonheur n'attend pas. Et vous savez à quoi on reconnaît le bonheur ? Au bruit qu'il fait quand il s'en va.
C'est qui ça ?
C'est de moi. Non, c'est pas de moi, mais je trouve que c'est joli.
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
Non, elle est qui alors la citation ?
On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Ben là encore, c'est du Prévert.
D'accord.
Et je vous redonne la première citation avec les termes exacts. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
Prévert et Kali, c'était donc le choix du comédien Antoine Duléry.
Qu'on retrouve demain et mercredi au Palais des Glaces dans 90 minutes avec Antoine Duléry.
On vous retrouve demain vous aussi ?
Plus court.
Plus court, bon.
Pas 90 minutes, mais on me retrouve demain.
À demain. Dans le feuilleton, jusqu'à vendredi, une semaine sur les traces de Georges Brassens. Ce mois d'octobre 2021 marque à la fois les 100 ans de sa naissance, à 7, ce sera vendredi le 22, et les 40 ans de sa mort. Jérôme Cadet a rencontré le dernier guitariste de Brassens, Joël Favreau. Il l'a accompagné sur ses albums à partir de 1972. Joël Favreau a aujourd'hui 82 ans. Il sillonne écoles et salles communales pour faire vivre la mémoire de l'homme à la moustache. Premier épisode, la rencontre avec la musique de Brassens. Joël Favreau était adolescent.
J'ai rencontré ces chansons quand j'avais une quinzaine d'années et je lui dois une fière chandelle parce que ces chansons m'ont aidé à me rendre compte que j'étais pas obligé de suivre la voie toute tracée dont j'étais menacé. Et il m'a fait découvrir qu'on avait le choix, que c'est possible de prendre du recul, de pas se laisser forcément dominer par le conditionnement qu'on subit tous.
Ça, c'est quelque chose qui a résonné pour vous dans les années 60, par exemple, avant de le rencontrer ?
Dans les années 50, 50. Déjà. Et oui, et là, les premières chansons m'ont fait justement découvrir que j'avais quand même une possibilité d'avoir une vie personnelle, quoi, autrement que celle que les études me poussaient à adopter. Il m'a sauvé peut-être d'une grande dépression.
Quelle chanson vous fait rencontrer Brassens ?
Une chanson comme par exemple Les Sabots d'Hélène, eh ben ça a l'air d'une petite bluette comme ça, mais mine de rien, Brassens, c'est pas quelqu'un qui répond à vos questions, mais c'est quelqu'un qui vous aide à les porter plus loin, par quelques petites suggestions. Eh ben, Les Sabots d'Hélène, les trois capitaines auraient appelé Vilaine, et puis moi j'ai pris la peine de les déchausser. Oui. Moi, Les Sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine.
Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés.
Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés.
Au-delà de l'histoire qui serait peut-être un peu anecdotique, eh bien, ça m'a fait m'interroger en disant, est-ce que moi aussi je ne me laisserais pas un peu abuser par les apparences ? D'une façon plus générale, au-delà de la petite histoire d'amour dont il s'agit, eh bien, ça nous incite à la réflexion et je dois dire que c'est une nourriture qui m'a aidé un peu à grandir.
Donc si je vous comprends bien, vous me parlez des sabots d'Hélène, ça veut dire que ce sont d'abord les mots qui vous touchent avant la musique ?
Non, ça ne peut pas être que les mots. Parce que je les ai pas lus, je les ai entendus d'abord. Et c'est la
musique. Il y a la musique des mots.
Et bien sûr, parce que le talent qu'il a, c'est particulier aussi, c'est de mettre les mots qui collent sur la musique et la symbiose des deux apporte une énergie incroyable à ce qu'il raconte.
Il y a des mots chez Brassens qu'on ne lit ou qu'on entend nulle part ailleurs. Les philistins, les croquants, le quadrumane, ce sont des mots qu'il déterre.
Ah ben, y a aussi les sycophantes quand même. Voilà, les chevaliers dans le dictionnaire.
Philistins, épiciers, tandis que vous caressiez les sycophantes du pays sans vergogne. Aux gendarmes nous ont trahis. Nous ont trahis.
Tous ceux qui s'intéressent un peu aux chansons de Brassens ne perdront pas leur temps. Parce que c'est ça qu'ils ont aussi de formidable, les chansons de Brassens. C'est que, évidemment, on peut les écouter comme on écoute ordinairement les choses, c'est-à-dire en bruit de fond, mais on reste à la surface. Tandis que si on s'y intéresse d'un peu plus près, à ce moment-là, on commence à se rendre compte qu'ils nous suggèrent des questions. Et que c'était justement, il nous aide peut-être à avancer par des suggestions sans nous asséner de dogmes, parce que vraiment c'est quelque chose dont il avait horreur.
Et demain, la rencontre entre Joël Favreau et Brassens, c'était en 1966. Le feuilleton est signé Jérôme Cadet, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Des dizaines de morts algériens qui protestaient contre un couvre-feu discriminatoire samedi pont de Beson. Emmanuel Macron a marqué l'anniversaire du 17 octobre 1961. Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. Une fois encore, on mesure combien l'enjeu mémoriel numéro un aujourd'hui est la guerre d'Algérie. Mais le nom de Papon, qui revient dans ce communiqué d'Emmanuel Macron, est aussi celui d'un préfet du régime de Pétain, dont les partisans sont toujours prêts à faire appel de la condamnation pour fait de collaboration.
Alors cette date du 17 octobre 61 a fini par être surinvestie de part et d'autre de la Méditerranée. Dès l'anniversaire de 2001, 10 000 personnes manifestaient à Paris, presque autant qu'en 61. Et hier, dans toute l'Algérie, une minute de silence était observée. Le rendez-vous avec l'histoire était donc prévisible. De nombreux professeurs de maintien ne se sont pas privés de dire que le président n'était pas allé assez loin ou au contraire qu'il était allé trop loin. En tout cas, il avait eu le temps de peser au trébuchet chacun des mots qu'il allait écrire. Et il a écrit dans son communiqué le nom de Maurice Papon.
Algérie, mais aussi l'Afrique noire, le Rwanda, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, selon les cas, des militants descendants de victimes attendent réparation, restitution, reconnaissance, voire repentance. Ça fait beaucoup de questions mémorielles pour un seul président.
Notre camarade Emmanuel Laurentin vient d'en faire l'inventaire dans le numéro d'octobre de la revue Esprit et il pose cette question à l'issue de son article. La seule volonté d'un homme peut-elle gouverner les irruptions du passé dans notre présent sans être débordée et comment maîtriser les injonctions contradictoires, les mémoires réactivées des uns des autres.
Et voilà donc que pour protéger les mémoires du ministre de l'Intérieur de 61, du Premier ministre d'alors et surtout du général de Gaulle, le chef de l'État remet sur le tapis le nom de Papon.
Germaine Tillion disait à son éditeur Jean Lacouture, c'est pas moi qui irai le tuer, mais s'il faut témoigner pour celui qui l'aura tué, eh ben j'irai. On veut croire que le nom de Maurice Papon est généralement omis après son procès et sa condamnation en 97-98 et qu'un consensus s'est établi autour de la mémoire de 40-44. À la veille de la cérémonie du pont de Beson, Emmanuel Macron a rendu hommage aux derniers compagnons de la libération. Il a pu rappeler tranquillement le départ d'Hubert Germain pour Londres en 1940 et son retour en France avec les troupes débarquées en Provence. Le premier geste du jeune chef, a-t-il dit, fut de prendre entre ses mains un peu de terre de France. Alors avec cette image qui est censée provoquer une émotion commune, le président se tenait dans un consensus. Sauf que le lendemain, il a réveillé le dossier Papon, haut responsable de Vichy avant d'être préfet à Constantine en Algérie et futur ordonnateur de la lutte contre le FLN à Paris. Les deux mémoires de la Seconde Guerre et de la guerre d'Algérie demeurent étroitement tressées. C'est en s'apercevant que la police et l'armée utilisent en Algérie, dans les années 50, des méthodes comparables à celles des Allemands dans les années 40, que Germaine Tillion, par exemple, ancienne résistante et déportée, a basculé dans un soutien à l'indépendance de l'Algérie dont elle n'était certes pas convaincue au départ. Et inversement, ce sont souvent les mêmes qui veulent continuer de soutenir les comportements de l'armée et de la police pendant la guerre d'Algérie et qui soutiennent de rechef la vieille théorie du glaive et du bouclier. De Gaulle aurait été le glaive et Pétain de concert avec lui le bouclier. Et Pétain aurait même, paraît-il, protégé les Juifs, enfin les Juifs français, en sacrifiant les Juifs étrangers. Il est vrai qu'en Algérie, le maréchal a retiré la nationalité française aux Juifs du pays en en faisant des Juifs étrangers. Toujours le révélateur algérien.
Comparaison donc entre l'Algérie coloniale et la France occupée. Est-ce qu'elle est féconde? En quoi peut-elle aider à la réflexion?
Nombre de résistants en étaient venus à une interrogation pendant l'occupation. Nous autres, les Français de la métropole, est-ce qu'on n'aurait pas fait l'expérience d'une occupation coloniale? Et alors, comment qualifier le 17 octobre 1961 ? Crime inexcusable, enfin, y en est-il qui soit excusable ? Violence d'État, moi je proposerais violence coloniale, c'est-à-dire que la France a fait l'expérience de la violence coloniale sur son sol en 1961.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire.